Nous recevons aujourd'hui M. Jean-François Six. Il est né en 1929. Il est docteur ès lettres en théologie et en sciences des religions et diplômé de l'École pratique des hautes études. Il est actuellement président du Centre national de la médiation. Il est également fondateur et président du Réseau européen de la médiation, fondateur de l'Institut de formation à la médiation et fondateur de l'association Droits de l'homme et solidarité. Comme vous avez pu vous en apercevoir, à l'entrée vous ont été distribués des papiers vous donnant des informations sur le Centre national de la médiation et sur l'Institut de formation à la médiation. J'espère qu'ils sauront retenir votre intérêt. Jean-François Six est par ailleurs l'auteur de nombreux ouvrages, j'en citerai quelques-uns. « Littré devant Dieu » en 1962, « Des chrétiens interrogent l'athéisme » en 1968, « Louis Massignon » en 1969, « Du syllabus au dialogue » en 1970, « Combat pour les vieux jours » en 1983, « Guide des solitudes » en 1985, « 1886, naissance du XXe siècle en France » en 1986, « Le temps des médiateurs » en 1990 et « Dynamique de la médiation » en 1995. Il va nous parler aujourd'hui de la médiation et des médiateurs pendant 50 minutes, après quoi nous passerons à 20 minutes de questions comme d'habitude. Je vous remercie beaucoup.
Bonjour à chacune et à chacun. Nous allons travailler ensemble, si vous voulez bien. Parmi les quatre feuilles que vous avez reçues à l'entrée, il y a une feuille jaune qui vous permet d'indiquer tout de suite des questions ou des réactions pendant le cours même de la conférence pour que vous travailliez vous-même pendant cette conférence, que je ne sois pas seul. Ensuite, ces papiers seront recueillis parce que nous voudrions en faire une étude sur vos questions et vos réactions. Ça nous intéresse beaucoup. Vous avez en même temps le plan, ce qui vous permet de suivre pas à pas davantage, mais vous n'en avez peut-être pas besoin, vous comprendrez certainement facilement. Quand, dans Milan, en l'an 3000, des historiens vont étudier la fin de notre XXe siècle, leurs superordinateurs qui seront capables de traquer la moindre virgule du moindre texte vont repérer qu'un mot a conquis tout particulièrement les 10 dernières années que nous venons de vivre, un mot valise, un mot baladeur, un mot mode, un mot magique, ou plutôt deux mots en un, médiation, médiateur. Et les historiens vont pouvoir déchiffrer aussitôt que ce mot s'est atomisé littéralement, qu'il s'est instrumentalisé en des secteurs extrêmement différents, mis à toutes les sauces. Mais nous pouvons dès aujourd'hui, avec nos outils plus primitif que dans 1000 ans, le constater à travers la multiplicité des adjectifs qui sont désormais accolés à médiation. Celle-ci se dit pénale, familiale, judiciaire, culturelle, interculturelle, sociale. Il y a même de la médiation corporelle. Et nous pouvons constater cette inflation fulgurante à travers ces nouveaux envahisseurs qui sont à nos portes et dans nos maisons, les médiateurs. Ils sont là, en place, dans les tribunaux, dans les immeubles, la famille, les quartiers, les entreprises, la banque, les assurances, la poste, l'éducation nationale, j'ai rencontré le grand médiateur de l'éducation nationale hier, les hôpitaux, etc. Ce n'est pas le lieu ici de faire un inventaire, qu'il soit scientifique ou à la Prévert, des colonies de médiation et de médiateurs qui se sont établies et qui naissent chaque jour. Nous y passerions l'année ou presque. Nous avons à nous demander le pourquoi de cette explosion en chaîne. Parmi les différentes raisons que l'on peut trouver, je voudrais en évoquer une qui me paraît importante. Nous tous, nous sommes confrontés à une situation, Paul Virilio l'a bien analysée, qui est marquée par une folle accélération et non pas par une fin de l'histoire. L'avenir n'est plus ce qu'il était, disait il y a plus de 60 ans Paul Valéry, que dirait-il aujourd'hui ? Or, les grands systèmes d'identification collective semblent voler en morceaux et ne plus pouvoir donner d'oracle, tandis que tout se complexifie à souhait. Et devant ce raz-de-marée, comment ne pas se sentir perdu ? Comment, dès lors, ne pas chercher des recours, des bouées de sauvetage et des sauveteurs qui paraissent nécessaires à la survie immédiate ? Notre monde cherche désespérément de la médiation et des médiateurs. Ceux-ci répondent à leur présent et des médiateurs de toutes sortes, pour le meilleur et pour le pire, comme il est d'usage dans les choses humaines. Des charlatans et des escrocs ont beau jeu de prendre un masque de médiateur pour aboutir à leur fin. De bonnes âmes empressées à faire le bien s'adonnent à la médiation comme dernier avatar de la charité. D'autres se précipitent qui ont le désir de devenir petit juge, petit thérapeute ou quelquefois heureux de banlieue. Laissons là le pire que tout citoyen peut discerner et essayons, pour les multiples médiations valables, de trouver un fil conducteur qui permette de distinguer entre elles. Distinguer, n'est-ce pas là un blasphème ? Est-ce que la médiation n'est pas en soi haute et admirable au point qu'elle doive être une, indivisible, réunir en son sein toutes les médiations dignes de ce nom ? Un principe directeur ne doit-il pas les commander toute une philosophie commune ? Cette objection qui participe d'une vision idéaliste et qui se décline en pensée unique, je crois que nous devons l'écarter d'emblée. Elle est posée par ceux-là même qui voient dans la médiation un outil magique, une sorte de merveilleux instrument à supprimer les conflits. Ils sont fascinés par la médiation parce que pour eux, le conflit, c'est le diable, et que la médiation est à leurs yeux le Deus ex machina providentiel descendu du ciel en cette fin de siècle pour le terrasser. Si, dès lors, l'on ose dire qu'il peut y avoir confrontation autour de la médiation, on apparaît comme un séide du diable. Il voudrait que tout le monde soit autour de la médiation comme des enfants auprès, au pied d'une même mère, chantant en chœur d'une seule voix. On peut comprendre cette nostalgie qui vient de l'enfance, ce besoin de retrouver un paradis perdu, mais le principe de réalité est là qui demande qu'on réfléchisse et qu'on regarde en face ce qui existe. Il s'agit non pas de polémiquer sur la médiation, quel sens cette procédure aurait-elle, mais de distinguer, distinguer pour unir, dit le philosophe. Première approche, si vous voulez bien, descriptive. Distinguer, c'est un travail qui est un peu à contre-courant parce que notre tendance d'esprit et la poussée actuelle vont en sens inverse, tout voir un peu du pareil au même, faire du grand tout, sans oublier la manie de faire des nœuds, comme dit René Char, notre malin plaisir à aimer tout embrouiller. Pour ce travail de discernement, je vais m'avancer avec précaution, en usant d'une première approche tout externe, que d'aucuns vont trouver peut-être poétique, mais on sait que les véritables poètes sont des gens qui ne se payent pas de mots. Cette première approche va me permettre de voir qu'il y a deux grandes configurations de médiation, la médiation maison d'une part, la médiation jardin d'autre part. La médiation maison. Une maison s'est construite en dur, pour des usages divers, selon une volonté directrice qui établit pour elle un but précis. L'habitat en question peut être aussi un domicile privé ou aussi un bureau. Les médiations maison sont instituées d'en haut, elles ont pignon sur rue, elles se posent là, elles sont fonctionnelles, elles ont une destination bien réglée. Exemple de ces maisons médiation, de ces médiations maison, le premier exemple saute aux yeux, c'est un palais, un tout seigneur, tout honneur. La République a décidé il y a un peu plus d'un quart de siècle de bâtir une maison médiation. Sur la plaque, on lit « Le médiateur de la République ». C'est une maison destinée à être accueillante à ceux qui ont eu maille à partir avec une autre maison, l'administration, soit qu'elle les ait mal reçus, soit qu'elle les ait déçus. Cette fondation a été une sorte de Big Bang initial et d'autres institutions publiques, parapubliques, privées, se sont mises à construire leur médiation maison. Des banques, des assurances, la Poste, la SNCF, des municipalités et des évêchés, des chaînes de télé et de journaux, on l'a dit. Un organisme qui n'a pas aujourd'hui sa médiation maison paraît un peu ringard. Or, ces maisons dépendent de ceux qui les ont créées, il faut bien le constater. Si nous prenons par exemple le médiateur mis en place par France 2, il est très lié à France 2, c'est sa chaîne. Même s'il proclame son indépendance face aux téléspectateurs, il reste qu'il est payé par France 2, qu'il y a son bureau proche de celui de la direction. Il n'est indépendant de France 2 que de la longueur de sa chaîne, longueur fixée par France 2. Autre exemple, la médiation familiale. Dans une journée d'études, deux experts en cette matière l'ont reconnu, À notre sens, ont-ils dit, le médiateur familial ne peut prétendre à l'indépendance, quelle que soit la structure dans laquelle il exerce, publique, associative ou libérale. En effet, il est tributaire d'une demande et, à ce titre, il est illusoire de prétendre à l'indépendance. Fin de citation. Ces maisons ont un chef, un maître de maison et des employés de maison qui font marcher la boutique. Chaque maison médiation organise ses employés et ses fonctionnaires selon ses besoins, selon les demandes de la clientèle, car le but de ces lieux mis en place par les institutions, ce pourquoi ils ont été créés et mis au monde, c'est d'établir ou de rétablir le contact entre cette institution et ceux qui ont affaire à elle. Quand la République a aperçu que tout n'allait pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, celui de l'administration, c'était un peu de sa faute d'ailleurs, elle avait multiplié les décrets et les circulaires, elle a suscité son médiateur. La République, dans sa bonté, a monté une maison, dernier refuge et recours des administrés. Quand la SNCF, qui avait assassiné Socrate, informatiquement j'entends, égarant ses clients, quand elle s'est reprise de ce déraillement, elle a créé une maison de médiateurs qui vous indique votre chemin. Ces maisons, on le voit, sont fondées pour les besoins de la cause, pour satisfaire une clientèle que l'on perd, ou pour monter une enseigne ou redorer son blason, offrir à ceux qui recourent à une institution un service. C'est le cas de grandes associations qui veulent apporter un service à leurs membres. Ainsi, l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, qui a des services de médiation à l'usage des familles, mais aussi de petites associations qui s'y mettent, qui donnent naissance, elles aussi, à de multiples petites maisons médiation. Ces maisons, censées répondre à des besoins, à travers le maquis des difficultés actuelles, nous savons que nous avons besoin de nous adresser à des maisons de ce genre, de frapper à la bonne porte pour trouver les renseignements ou l'appui nécessaire. Et comme tout se complique, ces maisons indispensables poussent comme des champignons. Une précaution quand même, savoir, avant d'entrer dans ces maisons médiation, à qui elles appartiennent. Le pavillon peut couvrir n'importe quelle marchandise. Telle maison médiation peut être entretenue par tel parti politique extrémiste, telle autre par une secte. La vigilance est de rigueur. Mais dans l'ensemble, ces maisons médiation sont de très bonne utilité. Il faut se renseigner, savoir ce qu'elles peuvent offrir. Nos annuaires téléphoniques ne sont pas encore au point là-dessus, alors qu'ils le sont à la rubrique SOS. Si vous allez voir, c'est varié, c'est parfois étonnant. Cela va de SOS acupuncture à SOS retouche, en passant par SOS beauté service, SOS emballage. C'est du plus sérieux, SOS amitié, au plus inattendu, pardonnez-moi, mais c'est très douloureux, SOS hémorroïdes. Les maisons médiation sont elles aussi très diverses, comme les SOS. Leurs prix sont de même plus que variés. Les unes sont gratuites, les autres plutôt coûteuses. Permettez-moi dans ce dernier cas de citer l'annonce faite par une maison médiation qui propose ses services aux couples et aux familles en difficulté au prix de 300 francs l'heure. Mais le plus cocasse, c'est que l'annonce a été faite dans l'ouvrage Paris pas cher 2000. Les maisons, nous savons qu'il en est de toutes sortes, des plus nobles aux plus ambiguës. Dans le domaine de la médiation, il appartient à chacun d'être attentif à la façade, d'être critique par rapport au lieu et à ce qu'on lui propose. Et il ne faut peut-être pas trop en espérer, la plus belle fille du monde. Ces maisons médiation suivent notre époque et l'explosion des services. Et dernière remarque, elles savent s'adapter à notre époque. Elles se font même mobiles. Par exemple, l'école des parents qui a mis en place avec la ville de Paris un service de médiation familiale par téléphone, on n'arrête pas le progrès. La médiation jardin, toujours dans cette première approche. Dans cette première approche, on a pu distinguer à côté des médiations maison une autre configuration, beaucoup plus discrète, peu visible sur la place publique. Je l'appelle médiation jardin. Par comparaison avec la médiation maison, c'est une médiation qui n'a rien d'un bâtiment, c'est un lieu ouvert, sans porte ni fenêtre, ouvert à tout vent. Il n'y a pas ici de cadre obligé, aucun enfermement. La médiation maison, issue d'une institution, est nécessairement un pouvoir. Le pouvoir d'accorder à quelqu'un une audience, d'apporter une aide à quelqu'un qui en a besoin et qui vient le demander. Elle est tenue par des médiateurs qui sont tout prêts à vous sauver la mise, à combler votre manque, et c'est leur rôle. La médiation jardin, par contre, est sans aucun pouvoir. C'est une médiation que l'on fait dans une rencontre d'égal à égal, où l'on peut entrer en lien, où l'on peut cultiver les liens que l'on souhaite faire pousser et éclore, échangeant ensemble sur les joies et les difficultés du jardinage, de l'existence, partageant avec autrui les paysages et les accidents de terrain et de la vie en société. Il n'y a pas cette fois-ci quelqu'un qui, en ardente assistana, vous fait le travail à votre place. Il s'agit en médiation jardin que chacun s'y mette à la bêche ou au râteau, à rater, à même le réel quotidien, car il faut cultiver notre jardin. Cette démarche n'est pas tellement habituelle. Elle apparaît même incongrue à beaucoup de nos contemporains qui se sont installés dans des méthodes auxquelles ils tiennent, dans la manière de faire éprouver de l'assistance. Où l'on voit que la médiation maison est plus facile car elle reprend, sans inventer, sans innover, les méthodes binaires d'offre et de demande, lesquelles, répétons-le, peuvent rendre et continuer de rendre de multiples services. Mais dans la médiation jardin, on ne peut pas être passif. Il faut y aller d'une démarche active avec l'autre. Démarche active et en même temps détendue, car on s'y promène en un jardin. On y devise entre amis. Et je ne peux ici m'empêcher de penser à ces philosophes antiques qui dissertaient dans un jardin à l'écart d'Athènes, ces philosophes de l'école d'Aristote qui s'appelaient les péripatéticiens, pâtés où je me promène. Devant eux, il y avait leurs rivaux de l'école platonicienne, appelée l'Académie, bien installée, elle, dans la ville. Autre chose est d'attendre dans un bureau à l'abri des institutions, des demandeurs de médiation. Autre chose est de se trouver plein vent, se mêlant à tous et à chacun, écoutant, observant ce qui se passe, explorant le réel alentour, conversant avec les uns et les autres en commune médiation. Deux configurations, deux catégories de médiation, deux structures, deux styles différents. Deuxième approche. La première approche pour distinguer les choses en ce qui concerne la médiation, c'est, on l'a vu, une méthode descriptive, externe. Nous allons maintenant procéder à un examen interne avec une approche différente des deux courants en présence. Et il s'agit ici de nous interroger sur la finalité de chacun de ces deux courants, le but que chacun poursuit. Ce sont deux finalités différentes, on va le voir. Le courant qui a été décrit en médiation maison a pour finalité le conflit, de trouver des solutions face à des problèmes de dysfonctionnement, des litiges, des différends, bref, face à du conflit, maître mot de ce courant qui indique bien le but de son action, et ceci à tout niveau. Conflit entre des États, dans un couple, un quartier, une entreprise. Ce courant définit la médiation par rapport au conflit qu'il veut résoudre. Dès lors, il s'agira d'appliquer des techniques efficaces pour éliminer un conflit qui se présente. Et on peut comparer les médiateurs de ce courant à des thérapeutes ou à des médecins qui combattent la maladie par des moyens appropriés, ou encore à des pompiers, c'est une tâche très noble, qui s'emploient à éteindre ces incendies que sont les conflits. On voit que dans ce courant, c'est le conflit qui occupe la place centrale, le conflit qui est mauvais en soi et dont il faut au plus vite provoquer la disparition. Il s'agit de tordre le cou au conflit, à cette hydre qu'est le conflit. Et des livres entiers prônent l'esprit de la médiation comme l'esprit qui va détruire le mal qu'est le conflit. Et les médiateurs de ce type seront des anges exterminateurs du conflit, ayant pour but de restaurer le paradis perdu, l'harmonie initiale détériorée ou saccagée par le conflit. Des livres entiers et plusieurs formations de médiateurs développent à l'envi les 1000 moyens techniques proposés à ces médiateurs pour arriver à leur fin, c'est-à-dire pour gommer le conflit, le réduire à quilla. Faut-il en donner un exemple ? La Chambre de commerce et d'industrie de Paris s'est dotée d'un centre de médiation et d'arbitrage qui veut gérer, je cite, les conflits inter-entreprises. C'est ainsi qu'elle a organisé récemment, avec l'Ordre des avocats, une formation à la médiation inter-entreprises pour vous permettre, dit le programme, de pratiquer la médiation dans le contexte spécifique des litiges commerciaux. Quel outil pour cette médiation ? La négociation. Il est proposé aux participants d'apprendre à utiliser des techniques de négociation appliquées à la médiation. Et nous avons ici de la médiation qui est transformée par le gène de la négociation, de la médiation génétiquement modifiée. Dans quel but ? Pour mieux résister aux conflits, pour les faire disparaître surtout. Ce courant qui est appelé la médiation institutionnelle est finalisé par le conflit. Que ce soit cette chambre de commerce et d'industrie ou le médiateur de la République, c'est le même but. Ou quand des associations familiales ou caritatives ou des groupes d'experts mettent en place des organes de médiation, ils le font dans cette optique pour régler les conflits que nos contemporains trouvent sur leur chemin. Leurs médiateurs sont ainsi des réparateurs de conflits. Ils portent aide et assistance en cas de conflit. Ils apportent solutions aux conflits. Pour oser un néologisme, ce sont des solutionneurs. Tâche qui ne manque pas d'être fort utile en notre monde, qui est devenu de plus en plus enchevêtré, de plus en plus lieu de conflit. Il y faut des solutionneurs. Demande-réponse, conflit-solution. Les médiateurs font ici un strict travail binaire. Moteur à deux temps, avec les avantages et les inconvénients des moteurs de ce genre. La médiation conflit est maintenant la médiation rencontre. Quelle finalité poursuit la médiation qui n'est pas institutionnelle ? C'est une finalité extrêmement simple. Si simple que souvent, on ne la reconnaît pas, cette médiation. Elle est là comme la vérité sortant du puits, dans son plus simple appareil, et on ne la voit pas. Mais peut-être ne veut-on pas la voir, car il est beaucoup plus facile de s'adonner à de multiples activités de solutionnement que de voir et de vivre cette médiation. Sa finalité, son but d'un mot, la rencontre. Cette médiation, c'est la rencontre pour la rencontre. C'est le goût des autres. Par le fait même, cette médiation n'emploie pas des médiateurs. Elle ne veut pas entendre parler de médiateurs. Quand une personne ou un groupe me téléphone pour demander une médiation, nous nous donnons rendez-vous. Nous nous retrouvons autour d'une table. Et d'emblée, je dissipe tout équivoque. Je voudrais qu'il n'y ait pas de malentendu. Je n'ai pas de solution à vous fournir. Je n'ai pas de conseil à vous donner. Je n'ai aucune baguette magique à ma disposition pour faire disparaître votre problème. Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un consultant. Je ne suis pas un sachant. Il y a toutes sortes de spécialistes capables de satisfaire votre demande. Je n'en suis pas. Mais alors, me dit-on, que faites-vous ? À quoi servez-vous ? N'êtes-vous pas médiateur ? Et je réponds effectivement, je ne suis pas médiateur. Sur ma carte de visite, il n'est pas indiqué médiateur. Je n'ai jamais prétendu être médiateur, je n'ai jamais voulu l'être. Mais alors, qui êtes-vous ? Je suis un être humain comme vous. J'ai mes problèmes comme vous. Il y a pour nous tous deux manières d'aborder un problème. La première consiste à le résoudre techniquement, avec l'aide d'un expert en la matière, qui est un médiateur technicien binaire. Et dans un certain nombre de cas, il faut recourir à ce technicien. L'autre manière est toute différente. Parler du problème avec quelqu'un. Quelqu'un que je ne vais pas voir comme un technicien, mais comme un ami. Quelqu'un avec qui je suis d'égal à égal. Il ne va pas me donner de conseils, même judicieux. Il ne me jugera pas. Il ne me fera pas de morale. Il m'écoutera. Il posera de temps en temps, en ami, une question. La rencontre que nous aurons sera en elle-même une catalyse pour le problème en question. Et je dis alors à mes interlocuteurs, il y a des médiateurs pour votre problème, ce sont des techniciens, je ne suis pas médiateur. Ce que nous pouvons faire ensemble, c'est de nous parler, de parler ensemble. Vous, de votre côté, acceptant de ne pas recevoir ipso facto des solutions, de l'immédiateté technique, moi, me refusant à vous apporter d'en haut des solutions. Ainsi, nous allons vivre ensemble une médiation, recevant chacun l'un de l'autre. Nous nourrissant de ce que nous allons partager et de la confiance réciproque que nous nous donnons l'un à l'autre. En sortant, cette personne, ce groupe, s'apercevront qu'ils n'ont pas trouvé sur leur chemin une solution, mais un ami. Que nous n'avions pas été dans le registre de l'offre et de la demande, mais dans l'ordre de la rencontre. Même si cette personne ou ce groupe était venu strictement pour un conflit, elle n'aura pas perdu son temps. La rencontre l'aura aidé à mieux prendre la mesure de ce conflit, à prendre du recul et à mieux saisir les possibilités créatrices à faire émerger du conflit lui-même. La médiation est un pari sur la parole, sur la conversation qui porte d'elle-même ses fruits, un pari sur les échanges que les êtres humains s'accordent librement, gratuitement. Si j'étais médiateur ou si je me prenais pour tel, je me placerai un peu au-dessus de l'autre, ou de façon plus haute. Je serais tenté d'apporter mes idées, de convertir l'autre à mon point de vue, de faire avancer les choses au plus vite pour aborder enfin au rivage de la solution. Mais j'ai envie de vivre une médiation avec cette personne, avec ce groupe, avec le bénéfice réciproque de la rencontre en elle-même, qui n'aura peut-être pas apporté de solution, mais qui aura créé des liens humains. On comprend que cette médiation, nous pouvons chacun, chacune, la vivre partout, en famille, au travail, dans le quartier, dans une association, au gré de chaque événement quotidien. C'est du gratuit, c'est du luxe, cette rencontre, où il n'y a aucun rapport de force avec autrui, c'est une joie. Alors, le binaire et le ternaire. La rencontre, la médiation, veut l'égalité, une égalité qui existe entre amis ou entre citoyens. Ce qui ne va pas de soi, parce que notre monde se construit d'abord sur le socle binaire dominant-dominé. Et nous avons tendance à penser à vivre selon cette catégorie, d'abord, avec tout ce que cette catégorie véhicule de stratégie pour réduire ou éliminer l'autre, en oubliant que l'on peut vraiment tirer profit d'un lien gratuit avec l'autre. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que les tenants, forcenés ou non, du binaire, qui ne voient pas au-delà de leurs œillères, n'aiment pas le ternaire qui est pour eux par nature gêneur. Ces tenants du binaire que sont par exemple les médiateurs n'aiment pas la médiation. Ce n'est pas là un paradoxe, mais vraiment pour moi un constat. On a souligné auparavant l'engouement extraordinaire pour le mot médiation, engouement qui s'est traduit essentiellement par l'éclosion de multiples médiateurs, des hommes, des femmes qui se sont reconnus la vocation de médiateur. Cela partait la plupart du temps d'un bon sentiment, rendre service, apporter à autrui une solution pour ses conflits, se consacrer à ses problèmes. Tout cela qui est noble, même si s'y pointait parfois ce qu'un philosophe a appelé la tentation de faire le bien. Cela partait quelquefois d'une autre visée. Il arrive que l'on crée artificiellement des besoins ou des problèmes pour pouvoir y répondre de façon intéressée. Il arrive que des médiateurs soient de simples agents commerciaux trop intéressés. Tous ces médiateurs se donnent une mission. Certains se donnent même une mission littéralement rédemptrice, se vouant à extirper le mal qu'est le conflit. Libre à eux d'avoir cette perspective. Mais par là même, je crois que les médiateurs se mettent en contradiction avec la médiation telle qu'elle est fondamentalement. Nous savons que la musique militaire n'a pas pour premier but de magnifier la musique, mais d'entraîner les troupes. Reprenant un mot de Clémenceau, je dirais volontiers que les médiateurs sont à la médiation ce que la musique militaire est à la musique. Voilà pourquoi je ne veux pas être médiateur, je veux servir la médiation, je veux être un compagnon de la médiation. Nous passons, si vous voulez bien, à la troisième partie, les fondements philosophiques. Les médiateurs sont dans un concept binaire. La médiation, elle, est radicalement ternaire. Comment saisir la médiation en son essence même, ce ternaire ? Cette médiation qui est universelle, qui existe et qui cherche à exister partout dans le monde, dans l'espace et le temps, dans notre histoire humaine. Pour répondre à cette question, je voudrais recourir à des philosophies qui paraissent très éloignées, mais qui se montrent également aptes à exprimer la médiation. En Orient d'abord. Voici le taoïsme. Lorsque nous voyons le signe de yin et de yang, nous l'interprétons, nous autres occidentaux, qui sont des incorrigibles adeptes du deux, comme du noir et blanc, sans comprendre qu'il s'agit d'abord d'un mouvement, une circulation, une roue qui tourne, sans saisir que pour un taoïste, il y a entre le yin et le yang un espace qui leur permet à tous deux de s'articuler l'un à l'autre, de se faire vivre l'un l'autre. Un penseur chinois qui existe à Paris, François Cheng, vient de l'exprimer admirablement dans un bref article de Libération du 31 décembre dernier. Quelques phrases. Toute vraie pensée est inter. Ce qui naît entre les sujets est aussi important que les sujets eux-mêmes. Il faut donc sortir de la logique du 1 ou du 2 et faire grand cas du 3 que certains Chinois anciens eurent l'intuition d'appeler le souffle du vide médian, lequel fait se croiser harmonieusement le yin et le yang. Le vide médian, dit encore François Cheng, c'est le souffle qui relie toutes choses vivantes et qui les porte toujours plus loin qu'elles. Il s'agit donc ici d'un mouvement, d'un dynamisme, d'un dépassement. La médiation, c'est le 3, c'est le yin, le yang et le souffle du vide médian ensemble. Ce n'est pas le 1 comme le médiateur qui se prend pour la médiation, c'est le 3, les trois qui vivent ensemble une médiation et la font exister. Entre deux êtres qui se rencontrent et qui se lient d'une manière ou d'une autre, il y a justement le lien, le vide médian dont parle François Cheng, qui se met à exister entre eux, une amitié, un amour, quelque chose qui leur est commun et qui n'appartient à aucun des deux, la relation entre eux. Et même pour des adversaires qui se confrontent, un lien s'établit entre eux. Leur conflit même est là, réel, comme une tension qui peut se faire constructive, transformante. Plus que les êtres en soi et séparés, dit François Cheng, il y a ce qui surgit entre eux, ce qui les entraîne dans le devenir. Il faut faire de l'entre, un trois capable d'élever le deux sans le détruire. Au cœur de cette sagesse se trouve ce qui est essentiel dans la médiation, le non-pouvoir, ce que le taoïsme appelle le non-agir, le wei, qui n'a rien d'un statisme et d'une passivité, mais qui est un acte supérieur, celui de laisser mûrir au lieu de répondre aussitôt, au lieu de bloquer par un activisme, au lieu de casser par un interventionnisme. En Orient, grande sagesse. En Occident, cette philosophie de la relation a été ébauchée très tôt en Occident. Il faut invoquer Aristote et son importante analyse de l'amitié. Il distingue, en fonction des fins, trois formes d'amitié, selon que l'on vise l'intérêt, l'agrément ou la vertu. Le point commun entre ces formes est qu'elles tendent toutes trois à l'égalité entre ceux qui la pratiquent. Mais ici, c'est la troisième forme qui nous intéresse. Et l'on voit qu'il s'agit d'une relation éthique. Des amis se reconnaissent à l'intérieur de leur relation comme des semblables. Ils recherchent ensemble un bien commun. Ils se reconnaissent en égalité et en réciprocité dans la poursuite du meilleur. Cette relation, pour Aristote, n'est pas de caractère purement privé. L'amitié, va-t-il dire, est le lien des cités à laquelle les législateurs attachent plus de prix encore qu'à la justice elle-même, ce qui, à première vue, nous étonne. Mais pour Aristote, si la justice consiste à donner à chacun son dû, l'amitié fait, elle, qu'on est capable de renoncer à son dû, d'aller plus loin. Aristote voyait ainsi dans l'amitié le cœur du lien social. Cette philosophie du trois de la relation existe aujourd'hui sous nos yeux. S'il faut citer des noms, Husserl, Martin Buber, qui distingue si bien la relation interpersonnelle de la relation sujet-objet, Gabriel Marcel, qui définit l'amour une ardente et réciproque interrogation, le disciple de Gabriel Marcel, Paul Ricoeur, ces philosophes de la relation réagissent tout particulièrement par rapport à une certaine déification d'un système techno-scientifico-économique ayant des lois qui échappent largement aux prises de l'homme et devant de l'inhumain. Et sur quoi insiste-t-il ? Sur la relation. Sur ceci que la relation entre des individus établit des liens qui ont une consistance propre, une valeur propre, née de la construction de l'histoire. Et l'on voit bien, lorsqu'il y a violation, quelle qu'elle soit, psychique ou corporelle, on voit que toute violation introduit une discontinuité, une rupture, qu'elle vient briser ce qui, dans un être, est à la fois le plus singulier et le plus universel. Si une violation intervient dans la relation entre un père et sa fille, c'est leur relation singulière qui est atteinte, mais en même temps, c'est la relation parent-enfant, universelle, qui est atteinte. De même, dans la trahison d'une amitié, c'est la relation entre l'un et l'autre qui est brisée, brisure qui intervient de par une volonté qui unilatéralement se fait toute puissante, utilise la force qui, comme dit Simone Weil, transforme tout ce qui est humain en chose. On voit que cette philosophie de la relation est un entre. On n'y parle pas de la relation à quelqu'un ou à quelque chose, à soi-même ou à autrui, mais de la relation entre des êtres toujours singuliers et différents l'un de l'autre. Ce ne sont jamais psychiquement des clones. Ces êtres sont d'ailleurs individualisés et différenciés de par leur relation à travers leur relation même. Toute vraie relation est source et respect d'identité. Il ne s'agit donc pas de rapports extérieurs et abstraits entre des individus campés chacun sur leur position, des individus complets sur eux-mêmes, mais de liens existants d'emblée entre des individus, liens reçus à travers le cours et les actes de la vie, à travers le temps. Lien, par exemple, de citoyenneté, cette philosophie de la relation n'est pas d'abord et uniquement interindividuelle, elle est politique. Et les institutions politiques ont à prendre en charge et à défendre la liberté et l'égalité nécessaires à cette relation. C'est la relation entre les êtres qui est à la source et qui est au commencement. Ce ne sont pas, comme le veulent certaines philosophies ou certains pragmatismes ultralibéraux, les individus qui seraient donnés à l'avance d'eux-mêmes en autofiliation. C'est la relation qui est première, qui est la terre initiale. Peut-être le sommet de cette philosophie aujourd'hui a-t-il été atteint en notre siècle par Emmanuel Lévinas. Le sujet commence, dit-il, à partir de sa relation. Et l'ultime bien pour lui, c'est la rencontre d'autrui. Je cite « Autrui qui vous est étranger et indifférent, qui appartient ni à l'ordre de vos intérêts, ni à celui de vos affections, cependant vous regarde. Son altérité vous concerne, relation d'un autre ordre que la connaissance où l'objet est investi par le savoir. » Ainsi, parler n'est pas simplement dire quelque chose. C'est s'adresser à autrui, c'est en appeler à lui, c'est s'exposer à lui. Le langage est lien de la rencontre avec l'autre. Et la rencontre, c'est celle d'un visage. Je ne peux pas développer ici toutes les conséquences d'une telle philosophie de la relation, en particulier en matière politique. Nous avons vu plusieurs fois Alain Finkielkraut à la télévision qui développe très bien ces idées d'Emmanuel Lévinas. Ou au sens où Hannah Arendt le disait, l'amitié est une qualité politique. C'est le monde qu'on cherche à accueillir et à comprendre. Amitié politique, médiation, manière de vivre entre citoyens libres et égaux. Ce 3, c'est difficile. On s'enferme dans le 2 comme en un cocon, y compris dans un conflit. S'ouvrir à l'autre, à l'événement inattendu, c'est une tâche, celle de la médiation, une tâche toujours à recommencer, une tâche à laquelle il faut s'initier, passionnante et ardue. Et les auditeurs de l'Institut de formation à la médiation le savent bien. Ils savent que cette initiation n'est jamais terminée, qu'il s'agit de la poursuivre tout au long de la vie, à travers les travaux et les jours. La médiation, c'est une langue maternelle qui nous précède et nous dépasse, une langue ouverte et accessible à tous qu'il faut apprendre, un lien de communication entre tous, une langue qu'on n'a jamais fini d'apprendre, ou une langue où certains sont particulièrement artistes, comme les grands écrivains et qui nous entraînent dans leur voie commune. Elle est une langue, la médiation, elle est une culture, elle est tout particulièrement une culture sociale et politique, un art de l'être avec autrui. Il y a donc deux styles, deux cultures, deux philosophies qui existent autour du mot médiation. Plus brièvement, on peut dire qu'il y a d'une part des médiateurs, d'autre part la médiation, une culture binaire et une toute autre culture ternaire. Il importe de les distinguer l'une de l'autre, de voir qu'elles sont incomparables, incompatibles, qu'on ne peut pas les fusionner, de voir que la culture binaire est par nature désireuse d'absorber l'autre, la ternaire, de la réduire à son aune, parce qu'elle s'agace de la culture ternaire. Elle la trouve trop permissive, trop tolérante, pas assez ardente, en recherche de résultats. Et des penseurs comme Dufour ont montré l'irréductibilité entre la philosophie binaire et la philosophie ternaire, leur combat incessant. Il en est de même dans la médiation. Mais justement, ce combat peut affirmer et affiner l'identité de chacun des protagonistes, chacun dans son rôle propre, les médiateurs d'un côté, les compagnons de la médiation de l'autre. Conclusion, si vous voulez bien. En prospective 2025, puisqu'il y a 25 ans sont apparus la médiation et les médiateurs, prenons 2025, dans 25 ans. Sans vouloir tirer des plans sur la comète, les prédictions, les prophéties, disait Churchill, sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Nous pouvons nous demander quel sera l'avenir de la médiation et des médiateurs, non pas donc à 1000 ans, mais à 25 ans, modestement. Et d'abord des médiateurs. Je crois que ce n'est pas être grand clair que d'annoncer qu'il y aura de plus en plus de médiateurs. Ils auront en 2025 envahi tous les secteurs de la société. Il y aura même, grâce à Internet, des médiateurs machines qui répondront à tout problème. Ces médiateurs se seront organisés en corporations. Par exemple, la corporation des médiateurs judiciaires, celle des médiateurs d'entreprise, de quartier, etc., etc. Chaque corporation ayant son règlement ad hoc, sa formation ad hoc, et chacune des corporations dont leur objectif sera plus que jamais de traquer les conflits spécifiques de chaque secteur avec des techniques spécifiques. Ce corporatisme existe déjà maintenant, et peut-être que l'un des plus caractéristiques est le regroupement des médiateurs familiaux à travers, par exemple, le Comité national des associations et services de médiation familiale, lequel a son site internet et une revue qui est intitulée « Le médiateur familial ». Celui-ci est défini à partir des conflits familiaux et a pour objectif de les résoudre. Est-ce que cette corporation va réussir, ce qu'elle essaie depuis 4 ans, de faire reconnaître une professionnalisation du médiateur familial par les pouvoirs publics, lesquels jusque-là se montrent pour l'instant très réticents, l'avenir le dira. Quelle sera dans la société, grande question que nous devons nous poser, la fonction de ces médiateurs constitués, institués? Il y a un livre récent qui est intitulé « La médiation, les médiateurs », un livre collectif qui essaie de répondre à cette question. Cet ouvrage collectif traite de son sujet justement à travers des chapitres consacrés chacun à un secteur particulier avec un auteur chaque fois différent. Et on remarque que l'ouvrage est préfacé par un pionnier du courant de la médiation au conflit, Hubert Touzard, auteur d'un livre intitulé « La médiation et la résolution des conflits » et qui définit dans sa préface la médiation comme une procédure. La conclusion de l'ouvrage, qui n'est pas signée, est toute centrée sur le conflit. Or, elle est curieusement fort pessimiste sur le sort des médiateurs futurs et actuels même. Pourquoi ? Parce que, dit cette conclusion, ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont trop peu de poids pour trouver, je cite, des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Lesquelles solutions dépendent en effet moins, je cite toujours, des personnes et davantage des systèmes. Alors, quelle place va-t-on donner à ces médiateurs ? Et je cite, ils peuvent avoir une fonction d'alerte sociale et de transmission des propositions de modification des systèmes. On voit qu'il est question ici de résoudre les conflits et surtout d'avoir des moyens assez puissants, du pouvoir pour y parvenir. Sinon, si on ne leur donne pas de pouvoir, les médiateurs seront réduits à la portion congrue d'une fonction qui consiste à tirer des sonnettes d'alarme. Mais la fonction dévolue aux médiateurs est définie d'une autre façon dans cet ouvrage par 2 auteurs, Jacques Salzer et Jean-Pierre Vouche, qui ont écrit le chapitre consacré aux médiateurs des entreprises, des administrations et des associations. Et tout le chapitre s'attache très longuement à différentes méthodes qui peuvent être celles des médiateurs en ce domaine. Mais aux toutes dernières lignes, on trouve une définition assez étonnante de la médiation. Je cite, « Face à l'anxiété économique et sociale, la médiation apparaît comme un tranquillisant. Elle pourra être utilisée comme un tranquillisant anesthésiant, conservant les dysfonctionnements de la société actuelle en les rendant supportables. Elle pourra aussi être utilisée comme un tranquillisant stimulant en créant une dynamique d'un mieux-être pour tous. » Je ne connaissais pas encore cette nouvelle catégorie de tranquillisants, les tranquillisants stimulants. Reste que la médiation est définie comme tranquillisant. Ce qui est repris d'ailleurs dans la conclusion anonyme que je viens de citer, qui ne parle pas de tranquillisant stimulant, mais qui parle carrément de chloroforme. Endormira-t-on les populations par la médiation chloroforme en leur donnant l'illusion d'un pouvoir donné à une échelle extrêmement réduite ? Ce qui tracasse les auteurs, c'est manifestement l'absence de pouvoir réel, un pouvoir que le médiateur voudrait posséder, qu'il cherche même à obtenir de la part des pouvoirs publics en se faisant accréditer par ces pouvoirs. On ne voit pas comment cette médiation chloroforme peut aboutir à un mieux-être pour tous, à moins que ce mieux-être soit une grande léthargie massive obtenue grâce aux tranquillisants médiations délivrées aux populations. Tranquillité sociale, tranquillité des ménages, des rues, des bureaux, des ateliers. Dormez, braves gens. Tel serait le but imparti aux médiateurs tranquillisateurs. Il y a heureusement d'autres médiateurs et qui poursuivent un autre but, s'il est binaire ce but, s'il consiste finalement en une forme renouvelée d'assistance sociale au sens large, il a du moins son utilité et sa noblesse et ne réduit pas la médiation à un sous-opium du peuple. Les médiateurs, la médiation. On a vu que la médiation, en tant que telle, poursuit comme but le ternaire, ou plutôt elle vit le ternaire. Et elle veut faire vivre le ternaire. Or, pour vivre le ternaire, pour le faire vivre, il faut un nouveau regard et ne plus voir les êtres et les événements seulement en noir et blanc. Le ternaire est autre que le binaire « connais-toi toi-même », par exemple, où l'on demeure en vase clos, en fixation répétitive. Le ternaire demande de surgir au dehors, d'être véritablement au monde, d'entrer dans la vie, de se laisser saisir par elle, d'oser affronter le réel, d'oser se laisser toucher, que ce soit par le bleu du ciel ou une séparation, une injure ou un mot d'amour. Vivre intensément, faire fructifier ce lien, cette relation qui s'est mise à exister avec un être rencontré, avec un paysage nouveau ou même avec un conflit. Cette médiation, elle, que sera-t-elle devenue en 2025 ? Aura-t-elle été purement et simplement absorbée par le binaire, réduite à des techniques d'assistance unilatérale ou d'uniformisation ou de tranquillisation ? Je ne le crois pas. Si je le croyais, bien sûr, je ne serais pas ici. Car on peut l'espérer, la médiation aura fait peu à peu sa percée, elle aura résisté au binaire activiste ou au binaire endormant. Elle aura échappé à tous les procédés qui, comme dit Paul Virilio, veulent réduire notre terre à l'instantanéité et à l'ubiquité, veulent réduire le temps au moment présent. Elle aura enfin résisté aux médiateurs qui n'auront pas réussi à avoir raison, même s'ils se seront employés à faire croire qu'ils pouvaient répondre à toutes les questions, apaiser toutes les angoisses, remplir le vide, la béance qui sont nôtres. Cette médiation se sera d'ailleurs fortifiée par cette résistance même au binaire. On verra de mieux en mieux qu'elle est une mise en œuvre de la relation, de toute relation entre les êtres, entre les groupes, entre les êtres, les groupes et les événements. On verra quel est ce qui vivifie la relation, toute relation, ces relations qui sont ces vides médiants si importants pour que l'homme existe. La médiation, c'est la fécondation et l'aide à la croissance de toute relation, toute relation. Nous sommes responsables de toutes les relations horizontales qui existent là, maintenant, avec autrui, dans nos vies, nos familles, nos quartiers, notre cité, mais responsables aussi des relations verticales. Supprimer les filiations, sommer les individus de se fonder eux-mêmes par eux-mêmes, c'est l'inverse de la médiation. Et ne pas se préoccuper de demain, ne pas mesurer nos vies à l'aune des générations à venir, être indifférent aux conséquences demain de nos actes d'aujourd'hui, c'est l'inverse de la médiation. La médiation, un être avec autrui, un être pour autrui, c'est ainsi et ainsi seulement qu'elle pourra exister réellement en 2025. Ce qui signifie qu'elle ne peut pas, qu'elle ne doit pas être rangée, et c'est la grande tentation à son sujet dans un cadre de règlements, de décrets et de lois, que des institutions organisent pour répondre à des besoins immédiats. Leur corps de médiateur, leur cohorte de médiateurs, c'est leur tâche, binaire. Mais la médiation, elle, est d'un autre ordre et on peut espérer qu'en 2025, cet ordre apparaîtra clairement. Quel ordre ? L'ordre de la fraternité. Loin de moi le goût d'instrumentaliser affectivement la fraternité et de l'hypostasier. Je fais appel ici à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui, dès son tout premier article, ayant affirmé que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ajoute aussitôt « Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Il s'agit, on le comprend, d'une visée éthique, d'un impératif. Ils doivent. Ce n'est pas un simple conseil, mais un devoir. Personne ne peut s'en exclure, tous les êtres humains. Cet agir, cette praxis, c'est un devoir et c'est un agir à accomplir en continuelle réciprocité, les uns envers les autres, est-il dit. Et la déclaration met exactement la fraternité, la médiation à sa place dans la suite de la liberté et de l'égalité. La médiation, fille de la fraternité, requiert que l'on travaille premièrement à la liberté et à l'égalité. Il ne faudrait pas l'oublier. Tâche extrême, pourquoi nous le cacher ? Que de faire advenir concrètement, sinon ce n'est que du vent, la fraternité et la médiation. Au cœur du mythe fondateur de la Genèse, il y a le meurtre d'Abel qui est perpétré par son frère. Ce qui veut nous être dit dès le commencement, c'est que la mort peut ne pas être le simple aboutissement naturel de la vie humaine. Quel peut être meurtre ? Quel peut être une mort donnée par l'homme à l'autre homme, par un frère à son frère. Qu'il y a donc, au-delà du fait biologique d'être frère, il y a à devenir frère, à créer le lien de la fraternité de mieux en mieux, dans le privé comme dans la cité. Et c'est la tâche première à accomplir pour devenir un être humain digne de ce nom. La vraie fraternité, nous dit Lévinas, c'est la fraternité par le fait que l'autre me concerne. Et c'est en tant qu'étranger qu'il est mon frère. L'autre est autre. C'est dans son étrangéité même que je suis responsable de lui. Non en ce qu'il me ressemblerait, que nous serions du pareil au même, des clones, mais en ce que nous sommes autres l'un de l'autre. Et Lévinas parle de la rencontre de l'un l'autre, une relation vivante qu'il n'hésite pas à nommer d'un mot qui paraît fade à nos oreilles obsédées par les sons excitants, un mot qui est pourtant une petite musique ténue et si opiniâtre à travers toute l'histoire, la bonté. Lévinas définit la fraternité, une petite bonté individuelle d'homme à homme. De ce rapport à l'autre homme, Lévinas nous dit qu'il est un beau risque à courir. Sans l'agir communicationnel, sans la bonté, sans la relation, sans la confiance réciproque, sans l'hospitalité réciproque, le cœur de l'humanité, en 2025 ou avant, peut devenir un électrocardiogramme de plus en plus plat, un monde techniquement correct en deux dimensions. Là est l'enjeu de la médiation, la troisième dimension. Cela dépend de notre responsabilité, cela dépend de nous tous. La médiation est entre nos mains. Nous connaissons les vers de Paul Valéry. Il dépend de celui qui passe que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise. Ami, cela ne tient qu'à toi. N'entre pas ici sans désir. Merci de votre attention. Quelques petits papiers jaunes. Yves Michaud, le grand chef, a dit 50 minutes, ça a été 52, je crois.
C'est parfait.
Bon, et 20 minutes. Alors, donnez quelques papiers jaunes, parce qu'on ne peut pas entrer en débat, hélas, mais là, il y a du sabotage, vous voyez. Donnez-moi quelques papiers jaunes, si vous voulez bien. Madame Husso. Oh, parce qu'on a 20 minutes, pas plus. Merci. Mais vous les donnerez à la sortie, vos papiers jaunes, pour que nous ayons toutes ces questions et ces réactions qui nous intéressent beaucoup. Merci bien. Je vais prendre celles qui sont courtes, hein, parce que autrement, il y a des longs papiers. Et comment résister au binaire collectivement ? C'est tout notre problème. Ainsi, on parle de la médiation, si on veut mettre en route la médiation et de plus en plus, c'est pour résister au binaire, ou du moins de dire que le binaire n'est pas seul en piste. Il est très important, et par exemple, la justice, c'est du binaire, et il faut qu'il y ait la justice, et il faut pouvoir recourir devant la justice, bien sûr, devant le binaire. Mais il faut chercher continuellement à se placer en ternaire, et ça, c'est difficile. Quand, par exemple, à l'Institut de formation à la médiation, on y met 2 ans. Bon. Et c'est très dur, pendant les 2 ans, d'accéder au ternaire, d'entrer dans le ternaire. Il faut la plupart du temps au moins 1 an pour y accéder peu à peu. Bon. Parce que le binaire, on l'apprend tout naturellement. Le frère s'oppose au frère, etc. Et puis, on entre par des moments. Si je donne l'exemple du petit enfant qui est à l'âge de 8 mois, il est en immédiateté, il est dans le binaire complet avec sa mère. Il colle à sa mère. Il a été 9 mois dans le ventre de sa mère et pendant 9 mois encore, il va être en immédiateté. Et puis, il va arriver qu'il y aura dans sa vie un troisième, le tiers, le père qui, même sans dire un mot, sera là et que la mère va reconnaître comme étant dans sa vie. Et l'enfant va reconnaître le tiers. Et s'il ne peut pas le reconnaître au point extrême, il va devenir autiste. S'il reconnaît ce tiers dans sa vie entre sa mère et lui, et bien à ce moment-là, il pourra tout simplement entrer dans la société. Mais il y a des étapes. Il y aura son Édipe, et de nouveau, dans son Édipe, il faudra qu'il passe au 3. Et on peut tout au long de sa vie, et dans tous les moments de notre vie, refuser le ternaire. Et puis, on peut apprendre à y entrer tout doucement. Ce n'est pas une formation. Quand on parle de l'Institut de formation à la médiation, c'est au fond... On essaie de faire une initiation à la médiation, une initiation au tiers. Et les gens qui y viennent, on prend des gens extrêmement différents les uns des autres. Quand il y a un apiculteur en même temps qu'un polytechnicien ou un colonel ou une aide-soignante, ce sont des gens très, très, très différents les uns des autres. Bon, et c'est ça qui est intéressant, parce que par le brassage, les uns par les autres, ils apprennent à entrer dans le ternaire. Il y en a qui n'y entrent pas, d'ailleurs, parce que c'est trop dur. Alors, je vais vous dire les catégories qui entrent le plus difficilement, parce qu'ils sont tellement habitués au binaire, c'est-à-dire à donner des solutions. Bon, c'est les avocats et les assistants sociaux. Pour eux, c'est la mort du petit cheval que d'entrer dans le ternaire. Ils ne sont pas habitués. Bon. Mais quand ils y entrent, ils deviennent des ternaires formidables, tout en étant, en continuant d'être de très bons binaires dans leur travail, qui demande ce binaire qu'est être avocat ou être assistante sociale. Nous pratiquons les deux médiations forcément. Oui, nous pratiquons le binaire et le ternaire. Moi, je suis dans du binaire. Le tout, c'est de le savoir. À certains moments, je choisis, par exemple, je me bagarre, je suis dans le binaire et à fond. Bon, et je sais que je suis dans le binaire. Et puis, mais j'essaie le plus possible dans ma vie, dans les différents lieux de ma vie, de susciter du ternaire et de donner le goût du ternaire. Parce que ce n'est pas un goût naturel. C'est une cuisine particulière que l'on apprend à goûter peu à peu, pas à pas, et les uns par les autres. Les uns par les autres, parce que ce n'est pas d'en haut qu'on peut l'apprendre. Ce n'est pas par des préceptes ou des principes catégoriques qu'on peut l'apprendre. C'est vraiment une expérience. Et c'est ça qui est passionnant. Alors, de même, ceux qui viennent et qui demandent un médiateur et à qui on dit « on va vivre une médiation ensemble », ils apprennent la médiation par le fait même. Ils aperçoivent que c'est pas des conseils d'en haut qu'ils vont recevoir. J'ai envie de parler là parce que ça me tient très à cœur. Je me souviens de ce 9 mai 1950 quand Robert Schuman a fait cet acte extraordinaire. On va le célébrer les 50 ans. Bon, le charbon et l'acier qui avaient servi à faire des armes et à s'entretuer les Allemands et les Français les uns par les autres, Schuman a compris que c'était ces mêmes choses qui allaient servir de médiation entre la France et l'Allemagne, qu'on allait se mettre ensemble là-dessus. Et en même temps, il a fait une énorme médiation, il a vécu une énorme médiation, lui qui avait été, vous le savez, Lorrain et donc Allemand pendant une partie de sa vie. Et il n'a pas recommencé la bêtise de 1919 du traité de Versailles, où il y a eu beaucoup de mépris pour l'Autriche-Hongrie, bien sûr, et pour l'Allemagne, et on a vu ce que ça a donné. Il a considéré la dignité du peuple allemand. Et là, par le fait même, d'égal à égal, il a appelé à une amitié franco-allemande. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous voyez que c'est dans tous les domaines que cela peut exister, mais dans le plus petit domaine de la vie de tous les jours. J'ai envie de dire, j'ai parlé de l'enfant de 8 mois qui passe. Bon, nous savons bien qu'ils deviennent adultes, les enfants. Et quand ils deviennent adultes, eh bien, je vais être un petit peu piquant pour les médiateurs quelquefois, qui jouent à papa-maman. Bon, moi, je n'ai pas envie d'être médiateur parce que je n'ai pas envie de jouer à papa-maman avec les gens. J'ai envie d'être d'égal à égal avec eux. C'est-à-dire d'être en société fraternelle. Des exemples de médiation. Ça m'arrive quand même de temps en temps, assez souvent, de faire des médiations de succession. Des notaires ou des gens qui savent, qui disent on en a pour 5 ans, pour 10 ans devant un tribunal, est-ce qu'on ne peut pas recourir à une médiation, vivre une médiation ? Pour moi, j'essaie de vivre avec ces gens qui ont vécu quelque chose de très difficile. Ils viennent de perdre leur père ou leur mère, enfin le dernier défunt, et ils sont en succession. Et c'est un moment affectif extrêmement difficile où on comprend que des frères et sœurs se bagarrent, et quelquefois pour des queues de poire, c'est-à-dire des objets qui sont fétichistes, qui représentent le père et la mère, qu'ils veulent absorber l'un ou l'autre plutôt que ce soit le frère ou la sœur qui est tel objet ou tel champ, etc. etc. Alors, si je joue au père ou à la mère, ou au père et mère, vous comprenez que je joue un mauvais rôle sur le plan de la médiation. J'essaie d'être vraiment avec eux un frère, un ami, qui regarde les problèmes ensemble et qui, simplement, en les écoutant le plus possible, et il y a quelquefois des choses extrêmes qui arrivent. Je vais raconter une histoire, une toute petite histoire. Un frère et une sœur de 60 et 61 ans, leur mère venait de mourir 6 mois auparavant, et c'était la sœur surtout, qui était la plus jeune, qui faisait toutes les objections possibles pour la succession. Et pour moi, bon, j'avais pris quatre fois l'un, quatre fois l'autre, j'avais essayé de les écouter. Et puis à un moment donné, je me dis, je vais essayer de les mettre ensemble, ce que j'aime pas beaucoup faire, mais enfin là, j'ai essayé. Et puis, je fais un peu exprès, je me tourne vers elle, ils étaient tous les deux là en face de moi, et je me tourne vers elle, et puis je lui dis, écoutez, madame, vous croyez pas, j'ai l'impression qu'on a un peu avancé. Et elle se met en colère, ce que j'attendais un petit peu, mais à ce point-là, je ne pensais pas. Et elle, furieuse, elle se tourne vers son frère et elle lui dit, comment voulez-vous? Il n'y a pas moyen avec un frère comme ça, avec un homme comme ça. Et voilà comment il est. Elle fait un tableau, je vous assure, de son frère qui ne comprend rien du tout, qui n'a jamais rien compris. Et puis d'un seul coup, il y a un silence de 3 secondes. Et elle dit, et d'ailleurs, il y a très longtemps, j'avais 8 ans, et voilà ce que tu m'as fait. Elle raconte une histoire de 8 ans. Je vois le frère complètement ébahi. Si j'avais mal fait mon travail, j'aurais dit, écoutez, madame, ça fait plus de 50 ans, il y a peut-être prescription, on pourrait peut-être tourner la page. Et je me suis tourné vers lui et je lui ai dit, et j'ai l'impression, monsieur, de voir que, à votre tête, que vous ne vous souvenez même plus de cet incident qui a eu lieu entre vous, où vous avez fait tant de peine à votre sœur. Et il s'est tourné vers elle et il lui a dit, écoute, c'est vrai, je ne me souviens plus du tout de ça. Et je te demande pardon de t'avoir fait tant de peine. Et elle a éclaté en sanglots. Et les choses se sont tout de suite dénouées. Pourquoi? Parce que cette femme avait vécu un frère aîné d'un an de plus, mais qu'il avait un peu écrasé. Et lui, plutôt balourd, mais bon type. Bon, il n'avait pas vu tout ça. Bon. Et elle se saisissait de la succession pour pouvoir d'un seul coup s'opposer à son frère et lui faire payer ce qu'elle avait dans son cœur, peut-être d'ailleurs un peu injustement, vécu. Vous voyez, la médiation, et nous pouvons, vous comprenez que vous pouvez faire de la médiation très simplement dans votre vie de tous les jours, que c'est intéressant quand même d'en apprendre la culture, et qu'on n'a jamais fini, qu'on en apprend tous les jours, mais c'est intéressant, c'est tout à fait passionnant. Comment ? Ah ben bien sûr que je prêche pour ma paroisse. Bien sûr, je prêche pour la médiation. Et j'ai raison.
Vous êtes un sauveur, monsieur ?
Non, absolument pas. Justement, je demande qu'on ne soit pas sauveur des autres. Mais merci.
Pas d'insulte, s'il vous plaît. Un peu de respect pour le conférencier, s'il vous plaît.
Non, mais c'est bien qu'il dise, c'est dommage qu'il ne reste pas, mais il peut dire ce qu'il pense, il a tout à fait raison. Et vous savez, j'en entends de vertes et de pas mûres en médiation, alors je suis habitué et ça ne me gêne pas beaucoup. Vraiment. La conférence a été vraiment intéressante. Bon, c'est un autre point de vue, je m'excuse, monsieur. Cependant, un point d'interrogation reste en suspens. Ayant étudié la médiation dans un mémoire, je m'interroge sur la relation entre non-violence et médiation. Et c'est une question très intéressante. Et il est sûr que les principes philosophiques de la non-violence sont très importants pour la médiation. Il faut faire attention, il y a une différence entre la non-violence et le pacifisme pur et dur. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que la médiation, c'est tout arranger et dire... la paix à tout prix. Non, ce n'est pas la paix à tout prix. Il faut vraiment que l'un et l'autre gardent leur identité, puissent se confronter, et c'est très important dans une médiation que des êtres puissent se confronter, et même fortement. Je crois que... Mais pour aboutir à une non-violence. Nous avons nos 20 minutes, et je vais rester là. Merci, bon travail, bonne route à chacun et à chacune.